moment que nous passons ensemble cet après-midi. Ô Père, nous sommes sous ton regard. Nous sommes conscients de ton immense amour. Et nous voudrions te dire que ton Fils bien-aimé, en qui tu as mis tout ton plaisir, devient de plus en plus notre joie, notre bien-aimé. Non, il n'est plus seulement pour nous un sauveur. Il n'est plus seulement le Seigneur que nous désirons suivre et auquel nous voulons obéir. Mais il devient cet ami, fidèle et tendre, dont nous avons si souvent chanté l'amour dans nos cantiques. Nous désirons être authentiques. Nous désirons que tout ce qui sort de nos lèvres soit vrai. Et nous te bénissons parce que tu nous as dit ce matin que l'Esprit de notre Père était en nous. Alléluia. Amen. Eh bien, nous voici déjà dans cet après-midi du 5 décembre et nous avons devant les yeux le chapitre 2 de cette première lettre de Pierre. C'est toujours le message trinitaire et c'est toujours dans cette pensée que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu dont nous allons parler ce soir nous habite, que nous poursuivons notre étude. Je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure, en priant, j'ai eu l'impression que je devais revenir peut-être quelques instants sur une des vérités essentielles du premier chapitre, cette fameuse vérité de la prédestination. Peut-être que vous n'êtes pas préoccupé par cela, mais il est possible que dans votre vie quotidienne, vous entendiez quelqu'un vous dire, ben moi, qu'est-ce que vous voulez? Si je suis prédestiné, je serai sauvé, puis si je ne le suis pas, il n'y a quand même rien à faire. Je voudrais tout de suite vous dire que, bibliquement, s'il est vrai qu'il y a une prédestination à la vie éternelle, il n'existe pas de prédestination à la mort éternelle. Personne n'est prédestiné à la mort éternelle. Là, nous nous séparons carrément du réformateur Calvin, et qui voyait des êtres que Dieu aurait prédestinés à un châtiment éternel. Non, nous croyons à la prédestination, à la vie éternelle. Mais comme je vous le disais ce matin, le diable, au fond, s'est emparé de la prédestination pour troubler bien des âmes. Et nous devons, n'ignorant pas ses desseins, repousser toutes ces ruse que Satan emploie pour nous troubler. Je vous disais que la prédestination était un secret de famille. Nous n'avons pas à nous occuper de prédestination. Nous avons à évangéliser, à apporter l'évangile à toutes les âmes. Et ce que nous savons bibliquement, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, c'est cela que nous savons. Là, nous avons une certitude. Dieu veut le salut de tous les hommes. Et il a tant aimé le monde, figurez-vous que Dieu était œcuménique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et le mot œcuménique dont on a si peur, ça veut dire le monde entier, l'univers. Bien, vraiment, Dieu est œcuménique. Nous ne le sommes que très peu, hein. Parce que nous cloisonnons toujours les choses. C'est notre petit salut pour nous et puis les autres, eh bien, au revoir, adieu. Nous devons nous intéresser au monde entier. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que l'évangile est pour tous les hommes et que tous les hommes ont la responsabilité d'accepter ce salut. Mais s'ils le refusent, c'est eux-mêmes qui se perdent. C'est eux-mêmes qui se perdent. Mais une fois qu'on a accepté le salut, C'est alors que nous apprenons que nous sommes prédestinés. C'est pourquoi je disais que c'était un secret de famille. On a donné cette image d'un voyageur qui, lourdement chargé, poursuivait sa course et il arrive à un endroit où il voit une porte et une grande enseigne où il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et je vous donnerai du repos. » Alors, le voyageur se dit « Bien, je suis dans cette condition-là, je suis fatigué, je suis chargé. » Et puis, il y a cette invitation. Alors, que va-t-il faire? Il peut continuer son chemin, mais il peut aussi y entrer. Alors, s'il y entre, une fois qu'il est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il voit? Vous étiez élu dès avant la fondation du monde. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir quand il était sur la route. Il sait la chose une fois qu'il est entré. Comprenez-vous? C'est une fois qu'on est enfant de Dieu que l'on apprend qu'on était prédestiné. Alors, ça nous donne une assurance. Et cela nous permet vraiment de jouir de notre salut. On ne le remet pas toujours en question, puisqu'on sait que notre salut, il est entre les mains de Dieu. Et que Jésus a payé un tel prix, et qu'il ne permettra pas que nous puissions nous perdre. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à veiller, parce qu'il y a une récompense. Maintenant que nous avons encore souligné cette question, nous prenons notre chapitre deuxième en vous rappelant qu'il y avait à la fin du chapitre premier, dans les versets 13 à 25, quatre exhortations. C'était une des questions que nous avions posées pour ce matin. Combien d'exhortations trouvez-vous dans les versets 13 à 25? Je ne sais pas combien vous en aviez trouvé. Combien? 7? 8? Bon, vous pouvez, évidemment. Mais il y a quatre exhortations générales. Mais enfin, vous pouvez les subdiviser. Alors, il n'y a pas de mal à en trouver 7, c'est le chiffre de la perfection, en trouver 8, c'est le chiffre de la gloire, tout ce que vous voulez. Hein. Alors, ces exhortations, je les résume, il était question de feindre les reins de notre intelligence, c'est-à-dire être disponible dans nos pensées, dans la perspective de la venue du Seigneur. Et être au fond comme les Israélites dans la nuit qui précédait la Pâque, n'est-ce pas, en Égypte. Ils avaient les reins sains, les lampes allumées, et ils tenaient leur bâton à la main. Ils étaient prêts à partir. Nous aussi, dans l'attente du retour du Seigneur, nous devons avoir la même attitude. Nous sommes dans la nuit de ce monde, mais prêts à quitter ce monde. Puis, il y avait une deuxième exhortation, versets 14 à 16, c'était de devenir saint. Soyez saint, car moi je suis saint. Et puis, une troisième, que vous pouvez subdiviser, bien sûr, c'était d'avancer dans la promptitude de l'obéissance. Être des gens qui ont compris que s'ils étaient prédestinés à la gloire éternelle, pour le temps présent, eh bien, ce qui doit les caractériser, c'est l'obéissance. Ils sont mis à part par le Saint-Esprit, et puis ils ont à obéir. Nous sommes donc exhortés à une prompte obéissance. Et puis la quatrième exhortation, c'était de s'aimer les uns les autres. Une exhortation à l'amour fraternel. Et alors, dans le chapitre 2, c'est la suite. Vous avez là ce qu'on pourrait appeler une cinquième exhortation et qui consiste donc à nous nourrir spirituellement. Et puis, ensuite, la sixième, encore depuis le verset 4, à entrer dans la construction de l'édifice spirituel. Mais reprenons maintenant mot à mot. Nous devons rejeter quoi? Toute méchanceté. Qu'est-ce que c'est que la méchanceté? La méchanceté dans l'écriture, comme aussi le méchant dans l'écriture, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est cruel. Un méchant, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Qui n'aime pas qui? Qui n'aime pas Dieu. Parce que pour ne pas aimer Dieu, qui est l'amour, il faut être méchant. Pour ne pas aimer Jésus, il faut être méchant. Un méchant dans l'écriture, eh bien, c'est quelqu'un qui ignore, c'est une attitude. La méchanceté, c'est avant tout une attitude plutôt que des actes. Quand je ne veux pas de Jésus, quand je ne veux rien savoir de lui, ça prouve que mon cœur est mauvais. Parce que, qu'est-ce que vous pouvez trouver de plus excellent que la vie de Jésus? Si vous ne voulez pas de la vie de Jésus, c'est la preuve que votre cœur est mauvais, que vous êtes méchant. Car un seul est bon, c'est Dieu. Et si je ne reconnais pas la bonté de Dieu, c'est que moi je suis un méchant. C'est pas nécessaire d'accomplir des actes mauvais pour être méchant. Le méchant, c'est celui qui ne veut pas du Seigneur. C'est celui qui refuse le Seigneur. Il peut avoir une conduite honorable même, mais ce fait qu'il n'aime pas le Seigneur prouve qu'au fond de son cœur, il y a la méchanceté. Et c'est cette méchanceté qui est au fond du cœur qui doit être extirpée. Voilà ce qu'est le méchant. Alors, nous devons rejeter toute méchanceté, toute malice, parce que cela, ça vient de qui? Du mal. Jésus disait à des gens religieux, vous avez pour père le diable. C'était ça leur méchanceté. Vous avez pour père le diable. Et c'était pourtant des gens religieux. Alors, nous voulons rejeter toute méchanceté. Et puis, toute ruse. Qui est le père de la ruse? C'est Satan. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Genèse 2. Et qu'est-ce que c'est que la ruse? Bien, c'est un artifice dont on se sert pour tromper. C'est clair. La ruse, c'est un artifice dont on se sert pour tromper. Ça vient du diable. Eh bien, nous ne voulons tromper personne. Nous voulons vivre dans la transparence. Est-ce que nous avons compris ça? Un chrétien, c'est un homme qui aime la transparence. Nous sommes appelés à habiter la cité d'or, la ville sainte, qui est comme du cristal transparent et pur. Eh bien, souvenons-nous de cela pour que nos vies déjà soient transparentes. Nous rejetons la ruse, nous rejetons la fraude ou la dissimulation. Et puis, nous rejetons aussi l'envie. Mais il faut rejeter cela entièrement. L'envie, qu'est-ce que ça donne pour la santé? Vous connaissez les gens envieux? Ce sont souvent des crises de foi. Ils deviennent jaunes. L'envie, c'est une carie des os. Lisez un peu les proverbes. Et vous verrez ce que c'est l'envie. Ça sécrète toute espèce de toxine. Et ça empoisonne votre vie. L'envie. Eh bien, nous n'avons plus rien à faire à cela. Avant, nous pouvions être envieux. Et vous savez que Jésus, il a été livré par envie. Et Pilate le savait. Pilate savait que les Juifs l'avaient livré par envie. Donc vous voyez, l'envie conduit le Christ où? À la croix. Alors, si vous tolérez l'envie, vous rendez-vous compte que vous devenez ennemi de la croix du Christ. Alors, cela, ça pouvait nous caractériser avant notre conversion. quand nous vivions dans l'ignorance. On était envieux. Alors que l'envie maintenant dans nos cœurs vis-à-vis, parce qu'on envie qui, quoi? On envie ce que notre prochain peut avoir. Hein? Tandis qu'une fois qu'on est au Seigneur, ce que l'on voit chez notre prochain, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne de la joie. On est heureux pour l'autre. Est-ce que vous connaissez cela? C'est ça la vie chrétienne. C'est ça avoir l'esprit du Père. L'esprit de votre Père, s'il est en vous, il vous donnera de la joie en voyant ce que l'autre possède, au lieu d'envier. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. Délivré de l'envie. Heureux que les autres aient quelque chose. Parce que ce que les autres ont, ça me concerne aussi. Si vous êtes heureux et que je suis membre du corps de Christ, vous êtes membre du corps de Christ. Alors, la bénédiction que vous avez, moi je m'en ressens. Tandis que si vous êtes malheureux, la souffrance qui devient la vôtre, qui est la vôtre, devient aussi la mienne. Parce que sans ça, ça serait tout théorique. Si un membre souffre dans le corps de Christ, tous les autres souffrent. Mais si un membre est glorifié, tous les autres se réjouissent. Mais c'est à cela que nous devons arriver. Et ça ne doit pas être un effort, ça doit être la réalité. Si notre christianisme est authentique, nous devons nous réjouir de ce qui réjouit les autres dans le Seigneur, et puis nous devons souffrir de ce qui fait souffrir les autres. Nous avons tout en commun. C'est ça la vraie communion. Alors, nous rejetons donc la dissimulation, l'envie et toute médisance. Qu'est-ce que c'est que la médisance? C'est dire du mal des autres. C'est parler en mal des autres, en leur absence. Parce que vous savez, dans notre présence, il y a bien des choses qui ne se diraient pas. Mais quand on est absent, on peut dire n'importe quoi sur nous. Mais ça, vous savez, c'est dans le programme du chrétien. Qu'est-ce qu'on a dit de Jésus? On a tout dit de Jésus. Quand je pense à ce qu'on disait de Jésus, c'était un ami des publicains et des pécheurs, des prostituées et des pécheurs. Quand on dit que quelqu'un est ami des prostituées aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Il est comme eux. Hein? Il vit dans le péché. Bien voilà ce qu'on a osé dire de Jésus parce qu'il fréquentait ces gens-là. Parce qu'on prête toujours aux autres nos propres pensées, nos propres sentiments, nos propres désirs. Alors, il y a des choses maintenant que nous ne voulons plus entendre, que nous ne voulons pas voir. C'est notre caractère chrétien maintenant. Rejetant toute médisance, un, toute ruse, deux, toute dissimulation, toute envie et toute médisance, alors qu'est-ce que nous allons désirer? Nous avons une autre manière de vivre. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Qu'est-ce qui caractérise un enfant nouveau-né? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut du lait, n'est-ce pas? Il veut le sein de sa mère, si sa mère peut l'allaiter. Mais enfin, il veut son biberon, sur ça. Hein. Peu importe. Mais voilà, l'enfant réclame. Un nouveau-né, il veut vivre. Alors, il réclame ce lait spirituel pur. Alors, c'est là que je voudrais vous souligner une chose. Ici, le lait spirituel pur, qui est la parole de Dieu, hein, c'est pris dans le bon sens. Parce que vous avez d'autres passages où il est dit, comme Paul le cite hein, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Corinthiens que nous avons étudié le mois passé, « Je n'ai pas pu vous donner autre chose que du lait, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouviez pas supporter une nourriture plus solide. » Mais alors, il ne faudrait pas prendre ici ce lait dont il est parlé chez Pierre, dans le même sens que Paul le mentionne dans le chapitre 3 des Corinthiens. Dans le chapitre 3 des Corinthiens, il montre que ces Corinthiens qui auraient dû grandir dans la connaissance du Seigneur en sont encore aux vérités élémentaires. Ils en sont encore au lait. Mais ici, quand l'apôtre Pierre écrit, il parle de la parole de Dieu comme étant le lait pur de la parole de Dieu. C'est dans le bon sens. Tandis que dans l'Épître aux Hébreux aussi, il est parlé du lait dans un sens péjoratif. Il dit dans l'Épître aux Hébreux, je voudrais vous enseigner d'autres vérités, mais vous en êtes encore au lait. Et il est dit que celui qui en est encore au lait manque d'expérience. Hein. Il manque d'expérience. Alors là, ne prenez pas dans l'Épître de Pierre ce sens-là. Il faut voir dans le contexte quel sens donner. Là, c'est le lait spirituel pur qu'est la parole de Dieu. Et comme un nouveau-né qui réclame ce lait, eh bien, nous devons avoir le besoin de lire la parole. Alors, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout une imposition. Je vous dis, pour que vous soyez bénis, vous devez lire la parole tous les jours. Mettez au moins un quart d'heure pour lire la parole et vous serez bénis. C'est ça ? Non. Ça a l'air presque de vous obliger à prendre un purgatif. Il y en a qui en sont là, n'est-ce pas? Oh, mais ils ont lu la parole. Ils ont une triste mise. Même s'ils ont lu la parole. Il faut se nourrir. Il faut que vous ayez envie de lire la parole. C'est un besoin. Le bébé, eh bien, il crie pour avoir son lait. Et ça devrait être un cri pour nous, non pas un devoir. Vous savez, j'ai lu ma Bible aujourd'hui. C'est ça? C'est tout ce que ça vous fait? Vous soupirez, vous avez accompli votre tâche, votre devoir, votre béa, vous avez lu votre Bible. Il faut que vous ayez faim de cette parole de Dieu. Il faut que cette parole soit vivante. Si vous voulez connaître une pierre vivante, il faut que la parole soit vivante. Et puis, alors, pour que vous croissiez pour le salut, vous voyez que le salut, c'est pas quelque chose de tout cuit qu'on a, là, on l'a dans sa poche, je dis, le salut, c'est Jésus. Et croître pour le salut, c'est grandir dans la personne de Jésus. Grandir dans sa connaissance, c'est cela, le salut. Vous devez croître pour le salut, je dois croître pour Jésus. En quelque sorte, n'est-ce pas? Grandir pour Jésus, ne pas rester un bébé, mais grandir et arriver à l'état d'homme fait. Et vraiment, si vous avez goûté combien la parole est bonne, eh bien, vous avez ce désir de vous nourrir de la parole. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, quand est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Quand vous avez été convaincu de péché et que, au lieu de recevoir le châtiment, le jugement, vous avez reçu la grâce. Vous êtes sauvé par la grâce. Oh, combien nous avons goûté que le Seigneur était bon. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Eh bien, continuez, puisque vous avez goûté un jour, le jour de votre conversion, que le Seigneur était bon, eh bien, continuez de vous nourrir de lui. Il continue à être bon tous les jours de notre vie. C'est pourquoi il y a des gens qui se figurent que le premier amour, c'est normal qu'il diminue. Vous trouvez que c'est normal? Non. Le premier amour, il doit être constamment renouvelé. Parce que c'est un des reproches que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse. Tu as abandonné ton premier amour. Au moment de notre conversion, nous étions pleins d'amour pour le Seigneur, puis maintenant, eh bien, voilà, on s'est habitué. Non, mes amis, on ne s'habitue pas à cet amour de Dieu. C'est un renouvellement. Et on est toujours étonné. On dit, mais c'est pas possible qu'il m'aime de cette façon-là. Après tant d'années, il m'aime encore. Et puis, il me dit, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose d'étonnant pour moi? Je pourrais encore faire plus. Et je ferai plus, de sorte que vous devez toujours vous attendre à plus et à mieux avec le Seigneur. C'est vrai ou c'est faux? Il peut vous donner infiniment au-delà, hein, infiniment plus que ce que vous pouvez espérer et penser. Est-ce que c'est seulement un texte qui est dans l'Écriture? Non, ça doit être une vérité que l'Esprit de votre Père met dans votre cœur. Voilà, vous devez vous attendre à Dieu. Vous devez vous attendre à ce que votre Père vous fasse encore des surprise. Vous voyez comme ça serait tonique si on avait cette pensée. Dieu va encore me surprendre et va me surprendre en bonté, en amour, en générosité. Les trésors de Dieu ne sont pas épuisés. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est toute la parole qui vous dit cela. Et moi, je ne peux pas vous prêcher autre chose que cela, parce que c'est ça qui est vrai. Vous dire que je réalise tout cela, ce serait mentir. Je ne suis qu'un être faible. Mais ce que je sais, c'est que c'est vrai. Et ce que j'ai à vous prêcher, ce n'est pas ce que moi je réalise, mais c'est ce que la parole promet. Même si j'en réalise très peu, je peux vous dire, mais vous, peut-être, vous allez en réaliser davantage. Et je m'en vais me réjouir. Vous savez, quand on voit des enfants grandir, vous croyez qu'on est jaloux? Parce que nous, on vieillit? C'était pour ça qu'on est sur la terre. C'est pour voir nos enfants grandir, et nous, diminuer comme les carottes. Oui. Et c'est vrai. Nous sommes tordus dans nos pensées. C'est pour ça qu'il faut vraiment que avoir sain les reins de notre intelligence. Pour comprendre les choses comme on doit les comprendre. Alors on a goûté que le Seigneur était bon. Je demande vraiment que Dieu, dans cette retraite, nous fasse goûter que le Seigneur est bon. On l'a déjà goûté. Alors on va continuer de nous nourrir de sa parole. Alors, verset 4, bien, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, retirez-vous de lui. Oh, il y a tant d'années que je le connais. Puis on dit cela, n'est-ce pas? Puis on n'a plus de joie. Approchez-vous de lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, mais approchez-vous de lui. Regardez l'exemple de l'apôtre Paul. Il dit, moi, tout ce que je désire, c'est d'apprendre à le connaître. On dit, mais Paul, il y a si longtemps que tu connais le Seigneur. Oui, mais je ne le connais pas encore comme il faut le connaître. C'est une découverte quotidienne. Que le Seigneur est pour nous. Approchez-vous de lui. Alors, il est appelé ici la pierre vivante. Et souvenez-vous que c'est l'apôtre Pierre qui écrit cela, qui, dans le chapitre 16 de Matthieu, a fait cette merveilleuse confession en réponse à la question que Jésus posait à ses disciples. Et vous savez que c'est une des vérités fondamentales de l'Écriture. Dans la contrée de Césarée de Philippe, ce qu'on appelle aujourd'hui Bagnas, au pied de l'Hermon, Jésus pose à ses disciples cette fameuse question qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme. Alors les uns répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et c'est Simon-Pierre qui répond spontanément, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Cette confession que tu viens de faire, elle ne vient pas de ton cœur charnel. Tu viens d'avoir une révélation du Père. Et là, on peut dire que Pierre a vraiment parlé ex cathedra, c'est-à-dire d'une façon infaillible, parce que c'était une parole qui venait du Père. C'est le Père qui parlait en lui. L'Esprit de votre Père est en lui. L'Esprit du Père était en Pierre quand il a dit cette vérité. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Mais il y a un jeu de mots là qu'on ne peut guère rendre en français. Sinon, ici, dans la version, il a été bien traduit sur ce roc. C'est la confession que Pierre vient de faire, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur ce roc, c'est-à-dire sur le Christ lui-même, que l'Église serait bâtie. Alors, on peut demander simplement à l'apôtre Pierre, mais toi, comment est-ce que tu as compris cela? Eh bien, déjà, dans les Actes, au chapitre 4, quand Pierre se trouve, après la Pentecôte, à répondre devant le Sanhédrin, Et c'est là qu'il fait aussi l'expérience que c'est lui qui parle et qu'il n'avait pas à se mettre en souci. Lui qui avait renié son maître, maintenant que le Saint-Esprit l'habite vraiment depuis la Pentecôte, eh bien, verset 8 du chapitre 4, il est dit, « Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, il venait de guérir l'estropié, le boiteux de la belle porte, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous tous. » Quelle différence! Pierre, devant une servante, disant « Je ne connais pas cet homme. » Et puis ici, il confesse hautement et publiquement que ce n'est pas lui qui a fait le miracle, c'est Jésus de Nazareth. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que cet homme a été guéri. Et verset 11, il dit « Jésus est la pierre. » Alors, c'est définitif. Jésus est la pierre. Et même Jean-Paul II, quand il est venu au Québec, c'est la première chose qu'il a dit, je viens pour confesser que Jésus-Christ est la pierre. Il ne veut pas dire autre chose, parce qu'alors, où serait sa théologie? Peut-être qu'il vit d'une autre façon, ça c'est pas mon affaire, c'est la sienne. Et il aura à répondre devant Dieu. Mais il l'a dit, et je l'ai entendu, c'est le Christ qui est la pierre. Mais évidemment, aujourd'hui encore, vous avez un tas de prêtres qui parlent comme si c'était l'apôtre Pierre qui était la pierre. Alors, ils auront à répondre. De sorte que nous autres, si nous enseignons l'Écriture, nous devons être vrais et donner l'interprétation authentique. La pierre sur laquelle est fondée l'Église, c'est Jésus-Christ. Et les apôtres, alors, sont les premières pierres. Lisez dans les épîtres de Paul, et vous voyez que la pierre angulaire, c'est Jésus. Puis, cette pierre, elle est choisie, précieuse, devant Dieu. Mais elle a été rejetée par les hommes. Rejetée par les hommes. La pierre dont parlait le psalmiste au psaume 118, qui a été rejetée par les hommes, elle est devenue la pierre maîtresse. Les Juifs n'ont pas reconnu en Jésus la pierre angulaire. Alors, elle est devenue la pierre d'un nouvel édifice, l'Église. Il y avait le peuple d'Israël, peuple terrestre de Christ. Maintenant, il y a l'Église, qui est le peuple céleste. Qui est le peuple céleste du Christ. Puisque le peuple terrestre n'a pas reconnu, au moment où Jésus est venu, le Seigneur, le Messie, eh bien, la pierre qu'ils ont rejetée est devenue la pierre angulaire d'un nouvel édifice qui s'appelle l'Église. Je bâtirai mon Église. Mais cette Église ne pouvait être bâtie qu'après la mort et la résurrection du Christ. C'est une pierre vivante. Parce que Jésus n'est pas resté dans la mort. Et puis nous alors, qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que vous êtes? Les membres d'un club? Vous êtes une pierre dans l'édifice dont le Christ est la pierre angulaire, dont les apôtres sont les premières pierres de fondation, et puis nous avons été amenés par la puissante action du Saint-Esprit qui nous a séparés du monde. On a appris qu'on était prédestinés, mais prédestinés pour la sanctification et par la sanctification du Saint-Esprit, pour devenir des pierres vivantes dans un édifice. Et notre nom, est-ce qu'il est simplement écrit dans une association cultuelle? Il est inscrit dans le livre de vie. Hein. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits où ? Dans le livre de vie. Parce que vous pourriez avoir votre nom écrit dans un registre d'une communauté quelconque et ne pas avoir votre nom écrit dans les cieux. De sorte que ce qui compte, ce n'est pas de faire partie d'abord. Oui, nous sommes de ceux qui croyons que nous devons nous rassembler, mais ce n'est pas de faire partie d'abord d'une communauté, mais c'est de faire partie du corps de Christ, d'être membre de son corps. Voilà ce qui est avant tout essentiel. Mais étant membre de son corps, nous désirons nous retrouver les uns avec les autres pour nous édifier ensemble. Mais alors, vous voyez les liens qui nous lient maintenant. Lui est la pierre vivante et nous sommes des pierres vivantes. Vous-même, vous êtes des pierres mortes. Combien de membres d'église sont des pierres mortes? Oh, mais moi je suis une pierre. Oui, mais est-ce que c'est une pierre vivante? Parce que dans l'édifice spirituel, tout est vie. Édifiez-vous donc, entrez dans la construction de cet édifice pour former une maison matérielle, spirituelle. C'est ça que nous devons comprendre d'abord. Vous devez former d'abord une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Mais vous me direz, mais le sacerdoce, c'est pas pour moi, c'est pour mon pasteur. C'est mon pasteur qui est le sacerdoce. C'est vrai? C'est les curés qui ont le sacerdoce. Mais regardez, le sacerdoce, hein, c'est un livre catholique. J'aime à vous le montrer. Le sacerdoce. Le sacerdoce n'est pas le domaine réservé aux prêtres. C'est pas moi qui vous le dis. Les textes les plus anciens de la tradition chrétienne, des textes récents du Concile l'affirment clairement. Alors, vous voulez encore être dans la noirceur? Quand eux-mêmes le disent? Mais quelles conséquences ont tirées pour la manière de vivre cet unique sacerdoce du pape, de Jésus-Christ? C'est en toute lettre ici dedans. Puisqu'il y en a toujours qui doutent au sujet de ce que je dis, eh bien, je prends les bouquins là, hein, pour bien vous montrer. Je n'invente rien. D'abord, j'ai renoncé au mensonge, hein. Je ne défendrai pas la vérité par du mensonge. Je veux que vous connaissiez la vérité. Alors, s'il y a une vérité dans telle église, j'ai mal à souligner. Je ne vais pas dire le contraire. Parce que le jour où vous apercevez que je vous mène en bateau, que je vous mens, soi-disant pour défendre la cause du Seigneur, vous ne me croirez plus quand je vous soulignerai une autre vérité. Alors, il faut que les gens se rendent compte que nous disons la vérité. Parce que c'est ce que le Seigneur est. Et nous voulons rester dans la vérité. Nous n'avons pas à nous défendre nous-mêmes. Nous n'avons pas à défendre une cause particulière ou une église particulière. Nous n'avons pas à nous faire les défenseurs de Jésus-Christ ou les avocats de Jésus-Christ. Nous avons simplement à être les témoins du Seigneur. Alors, ce sacerdoce, il n'est pas seulement pour un pasteur ou un prêtre, parce que vous savez, c'est tellement facile de retomber dans les mêmes erreurs du passé. Au début, comment est-ce qu'ils s'appelaient entre eux, les apôtres? Ils s'appelaient frères. Ils étaient frères en Jésus-Christ. Et puis, ils travaillaient ensemble, ils avaient tout en commun. Et puis, ils essayaient de former les âmes pour que tous comprennent que dans un édifice spirituel, tous ont une tâche. Peut-être tous n'ont pas à enseigner, puisqu'il est dit qu'il n'y ait pas beaucoup de docteurs, mais tous ont une tâche et les dons sont différents. Et maintenant, dans le sacerdoce qui est le sacerdoce du Nouveau Testament, le sacerdoce de l'Église, ce ne sont plus des victimes d'animaux que nous avons à offrir, ce sont des sacrifices spirituels. Combien connaissez-vous de sacrifices spirituels? C'est le Christ, n'est-ce pas, qui était le grand sacrifice. Mais maintenant, nous avons, nous, à offrir des victimes spirituelles qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous pouvons offrir? Notre corps. C'est le premier sacrifice. Romains, chapitre 12. Offrez vos corps, en réponse aux compassions de Dieu, offrez vos corps en sacrifice vivant. Vous voyez que vous retrouvez le mot vivant. Hein. Vous êtes une pierre vivante, maintenant sur la pierre de base, et puis maintenant, ce ne sont plus nos péchés que nous offrons, mais nos corps. En sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà un premier sacrifice spirituel. Vous en connaissez d'autres qui sont appelés des sacrifices. La louange, chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, où nous trouvons ce verset, vous l'avez, verset 15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Quand nous confessons le nom de Jésus et que nous le louons, c'est un sacrifice spirituel qui est agréable à Dieu. Puis, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand vous faites part de vos biens pour l'œuvre du Seigneur, c'est aussi un sacrifice auquel le Seigneur prend plaisir. Mais ça doit être un sacrifice du cœur, non pas une extorsion parce que vous avez reçu une lettre qui vous demande de l'argent. C'est quelque chose de volontaire. C'est quelque chose de volontaire qui se fait. Et Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Maintenant, l'apôtre Paul, lui aussi, écrivant aux Philippiens qu'il y avait fait un don pour le soutenir dans son ministère, ce Paul qui travaillait de ses mains plutôt que d'être à la charge d'une église, eh bien, il est tellement touché qu'une église ait quand même compris qu'il avait aussi des besoins matériels. Eh bien, il écrit au chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens, il dit ceci, au verset 10 du chapitre 4, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Vous voyez comme il est l'apôtre Paul. Il dit, « Mais je savais que vous y pensiez, mais si vous ne m'avez rien envoyé, c'est que l'occasion vous manquait. » C'est merveilleux, cela. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à me plaindre de ma situation. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux, ça? J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Tout à l'heure, j'avais un entretien avec la directrice, la sœur directrice de cette maison. Et elle me racontait un petit peu la vie de certaines sœurs et qui, jusqu'au bout, après 10 ans de cancer, ma directrice me parlait d'une de ses sœurs, justement, qui a donné toute sa vie au Seigneur et qui a eu, en finale, 10 ans de souffrance d'un cancer, et elle a servi jusqu'au dernier moment à l'accueil Bonneau pour les pauvres. Elle se donnait à eux. C'est quand même merveilleux. Son corps repose là, dans ce petit cimetière. Il y a là des sœurs qui étaient vraiment habitées par le Seigneur. Elle ne s'est jamais plainte alors qu'elle souffrait. Il y a des gens pour un petit bobo qui demande un congé spécial, alors pour une... Donc voilà, une sœur qui ne s'occupait pas. C'était ses sœurs à elle qui souffraient, qui se posaient des questions. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet que notre sœur, qui s'est tellement dévouée, ait tant souffrance? Elle n'en a jamais parlé. Elle ne s'est jamais révoltée. jusqu'au dernier moment. Bien voilà ce que nous venons de lire dans l'épître de Pierre, n'est-ce pas, pour le temps qui nous reste à passer ici-bas. Nous voulons avoir un témoignage qui honore notre Seigneur. Et vous savez, quand nous verrons le Seigneur faire passer ses sœurs, dont on n'a peut-être pas parlé, mais qui ont eu une vocation, et selon leurs connaissances, qui ont aimé le Seigneur et qui ont travaillé pour lui. Peut-être que certaines n'ont jamais eu vraiment l'assurance pleine et entière de leur salut. Mais ce n'est pas l'assurance du salut qui sauve, c'est le salut en Jésus. Et je loue le Seigneur en pensant à tous ceux et à toutes celles qui ont œuvré pour lui, non pas en pensant que c'était leurs œuvres ou leurs souffrances qui leur méritaient le ciel, mais qui se mettaient entièrement entre les mains du Seigneur pour leur sort éternel. Et il y en a plus que vous ne pensez. Et vous aurez justement, ce que j'ai dit souvent, cette grande surprise de trouver là-haut des personnes que vous aviez peut-être mis en enfer, et de ne pas y trouver ceux que vous aviez mis au ciel. Et la troisième surprise, vous y trouvez vous-même. Parce que quand vous vous connaîtrez comme vous, comme le Seigneur vous connaissait, vous direz, mais c'est pas possible que j'y sois. Vraiment, il m'a aimé pour qu'il m'ait pris. Et vous comprendrez ce que c'était que la prédestination. Alors, revenons maintenant à notre Pierre. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, une pierre précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas conçu. Et vous savez, il y en a beaucoup qui croient quand même. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais quand on croit au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui doit se manifester? Une œuvre qui manifeste l'authenticité de la foi. Si vous dites, moi je crois en Dieu, je crois au Seigneur Jésus, et qu'il n'y a pas d'œuvre, votre foi, elle est morte. Elle est vaine. Elle ne vous sauve pas. Si vous êtes vraiment élu, prédestiné, c'est pour servir. Les Thessaloniciens qui étaient tournés vers le Seigneur, qui s'étaient convertis au Seigneur, eh bien, ils étaient sauvés pour servir. Ils s'étaient détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils, Jésus, et qui les délivre, nous délivre de la colère à venir. Eh bien, celui qui croit en elle, donc en cette pierre qui est Jésus, celui qui croit en cette pierre, en Jésus, ne sera pas conçu. Mais si je crois vraiment, eh bien, j'ai une œuvre. Nous sommes consacrés à Dieu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Vous voyez, c'est quelque chose de fantastique que le Seigneur ait bien voulu nous prendre comme étant une pierre. C'est un honneur de faire partie de son Église. Est-ce que vous avez compris que c'est un honneur de faire partie de l'Église de Jésus-Christ, d'être une pierre vivante. Et tout ce qui caractérise Jésus vous est attribué. La vie de Jésus devient votre vie. L'apôtre Jean ne nous dit pas autre chose. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Notre communion, elle est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Voilà notre communion. Notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Et si notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ, notre communion est aussi avec tous ceux avec lesquels Jésus-Christ est en communion. Voilà ma communion. Notre communion passe par Jésus-Christ. Et alors, tous ceux qui sont avec Jésus, qui vivent de la vie de Jésus, qui aiment le Seigneur Jésus, eh bien, je dois éprouver une communion aussi avec eux. C'est une communion d'amour. C'est pas le fait d'être dans un groupe qui fait qu'on est en communion. Parce que vous pouvez être dans le même groupe et ne pas avoir une communion réelle les uns avec les autres. Alors, cultivez votre relation avec le Seigneur. Et c'est impossible de cultiver notre relation avec le Seigneur avec sans relation avec ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qui aiment le Seigneur et qui obéissent à sa parole dans la mesure où ils ont la connaissance de cette parole, ils sont mes frères et mes sœurs. C'est Jésus qui l'a dit. Quand on lui est venu lui dire « Tu sais, ta mère et tes frères te cherchent », qu'est-ce qu'il a dit ? « Qui est mon frère ? Qui est ma mère ?» Puis il a regardé tout le monde, puis il a dit « Ce sont ceux qui font la volonté de mon père. » Celui-là, c'est là, est mon frère, ma sœur ou ma mère. Voilà ce que nous devons retrouver. Mais alors, il y a les incrédules. Pour nous, donc, c'est un honneur. Nous sommes sauvés par la pierre. Cette pierre vivante nous communique la vie. Nous sommes devenus aussi, nous, des pierres vivantes. Nous recevons la vie de la pierre vivante. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est pas que Dieu les destinait à l'avance à cela, mais si tu ne crois pas, quel sera ton destin? La perdition. Si tu refuses Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, si tu n'aimes pas le Seigneur Jésus, tu prouves la méchanceté de ton cœur. Ton cœur n'est pas régénéré. Mais si tu aimes le Seigneur, tu prouves que ton cœur est régénéré. Et tu veux le connaître davantage. C'est ce que Paul nous montre. Tout ce qu'il désire, c'est de connaître lui. Et alors, quelle est la vie qui va se manifester? Bien, vous l'avez dans la suite. Verset 9. Vous, au contraire, puisque vous avez cru, après nous avoir montré que ceux qui sont perdus, ce sont ceux qui refusent la pierre, qui ne veulent pas de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alors, souvenez-vous de cela. Et cette race élue, vous êtes élue depuis quand? Dès avant la fondation du monde. Avant que le monde existe, vous aviez une place dans la pensée de Dieu. J'aime à revenir au chapitre 8 des Romains, où il est dit, ceux que Dieu a préconnus, a connus à l'avance, il les a prédestinés à être semblables à qui? À l'image de son Fils bien-aimé. Voilà à quoi nous étions prédestinés. Mais c'est pas dans le ciel que nous serons semblables simplement à son Fils, c'est déjà sur la terre. Pour que nous vivions d'une vie nouvelle, d'une vie autre que celle que nous avons connue avant notre rencontre avec le Seigneur. Alors, vous êtes une race élue. Souvenez-vous de cela. Un sacerdoce royal. Qui est-ce qui vous appelle à un sacerdoce? C'est Dieu. C'est Dieu. Vous êtes tous appelés à un sacerdoce, quel qu'il soit. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce au Père par lui. C'est ça le sacerdoce. C'est dans la vie quotidienne, la femme dans son foyer, s'occupant de ses enfants, c'est un sacerdoce royal. Et on le méprise aujourd'hui. Il y a des femmes qui souffrent parce qu'elles sont à la maison. Parce que d'autres femmes leur disent, mais enfin, tu n'es rien, tu ne fais rien. Parce que pour certaines, c'est gagner de l'argent seulement. Mais élever les enfants, c'est un sacerdoce. Puisse-t-il y avoir davantage de mères qui se consacrent à l'éducation de leurs enfants. La femme au foyer, mais un vrai foyer qui a été bâti sur le roc, sur la pierre vivante. On se marie pour glorifier Dieu dans la vie à deux. On se marie pour glorifier Dieu dans une famille. C'est pas nous qui décidons le nombre d'enfants. Nous nous en remettons au Seigneur. Nous vivons dans sa discipline. Et c'est lui qui nous conduit en toutes choses jusque dans notre chambre à coucher. Le Seigneur est partout. Et nous avons un sacerdoce. Que nous soyons mariés, que nous soyons célibataires, vous avez un sacerdoce. À vous de découvrir quel est votre sacerdoce. Dans votre travail matériel, vous me direz, mais moi je travaille pour une maison qui n'est pas du tout chrétienne, etc. C'est pas ça qui compte. Toi, tu es chrétien dans cette maison. Accomplis ton travail comme un sacerdoce. Et c'est ça qui est fantastique. Même si tu dis, mais je suis un peu tanné de faire cela, eh bien, vois ton travail tout à fait matériel comme un sacerdoce. Vous savez, je dis souvent à mon coiffeur, et je sais qu'il y en a un parmi nous, hein, qu'il accomplit un sacerdoce quand il me coupe les cheveux. Oui, mais ça nous permet de parler, hein. Ça me permet de lui témoigner de mon Seigneur, de mon Sauveur. Je lui dis, il travaille pour le Seigneur, parce que le Seigneur ne veut pas que je sois tout embroussaillé. Ce ne serait pas un témoignage. Alors, je rends grâce au Seigneur aussi pour mon coiffeur. Et je demande au Seigneur qu'il me donne la possibilité de lui parler de Jésus comme il veut que je lui en parle. Quelle que soit votre occupation, c'est un sacerdoce royal. Je ne sais pas que c'est beau. Ça relève aussi nos tâches. Même si vous balayez, quand vous balayez, c'est un sacerdoce. Puis maintenant, vous êtes une nation sainte. Avant, la nation sainte, c'était quelle nation ? Israël. Mais maintenant, vous faites partie d'une nation sainte. C'est plus seulement Israël, c'est vous-même, vous êtes une nation sainte. Un peuple acquis par qui ? Par Jésus. À quel prix ? Au prix de son sang. Vous avez été racheté, vous voyez, vous êtes acquis. Vous lui appartenez, vous êtes élu, vous êtes prédestiné, mais vous appartenez au Seigneur. Un prédestiné qui n'appartient pas au Seigneur dans sa vie quotidienne. Mais votre vie, c'est le quotidien, ou bien ? Alors, si le Seigneur n'est pas dans le quotidien, où est-il ? Au fond du ciel, où vous allez le rejoindre un jour ? Non. Le Seigneur, il est au fond de notre cœur. C'est là que Dieu habite, dans notre cœur. Alors, souvenez-vous de cela. Méditez sur chacune de ces expressions. Et puis, si vous avez été acquis au prix infini de la vie de Jésus, c'est afin d'annoncer. Afin que vous annonciez les vertus, c'est-à-dire les forces, les puissances, la puissance de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions autrefois dans les ténèbres. Alors, c'est chaque mot qui devrait être médité et approfondi. J'étais dans les ténèbres. Je ne voyais pas où j'allais. Le sentier des méchants s'en va dans les ténèbres. Ils ne savent pas contre quoi ils trébucheront. Chapitre 4 des Proverbes, verset 18. Mais le sentier des justes, il est comme la lumière resplendissante qui va en augmentant jusqu'au plein midi. Voilà, il y a deux sentiers. Hein. Il y a le sentier des méchants qui va dans les ténèbres, puis il y a le sentier des justes. Avant, nous étions dans le sentier des méchants. Maintenant, nous sommes dans le sentier des justes. Alors, s'il y a eu de la lumière aujourd'hui, demain, il y en aura davantage. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va en augmentant. Alors, vous voyez, c'est une admirable lumière. C'est une grande miséricorde. C'est une admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, c'est vrai, nous étions étrangers, et qui maintenant est le peuple de Dieu. Mais c'est quelque chose d'être le peuple de Dieu. Vous rendez-vous compte ? Nous sommes sur la terre le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, c'est ce que nous étions dans nos péchés, mais nous avons maintenant obtenu miséricorde. À cause de sa grande miséricorde, de son grand amour dont il nous a aimés, eh bien, il nous a rachetés. Et maintenant, nous avons obtenu miséricorde. Voilà la troisième fois que ce mot miséricorde revient, après avoir parlé de la grande miséricorde. Alors, en conséquence, depuis le verset 11, vous avez des exhortations à vivre. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. C'est ce que nous sommes. Avant, nous faisions partie du monde, mais maintenant, nous sommes étrangers au monde. Nous sommes nés de nouveau. Et puis, nous ne sommes plus installés dans le monde. Notez bien ce verset. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs. Nous devons nous attendre à quitter ce monde. Nous sommes voyageurs sur la terre. Nous ne nous y installons pas. Alors, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles. Pourquoi ? Parce qu'elles font la guerre à l'âme. Et c'est tellement vrai. Que notre âme peut être vraiment un champ de bataille. On pourrait méditer longuement sur ces convoitises qui font la guerre à l'âme. L'avarice, par exemple, c'est une des convoitises. On est avare parce que on aime l'argent. Mais voilà, si je me laisse aller à l'avarice, mais que j'ai encore une autre convoitise, quelle convoitise, par exemple, qui coûte de l'argent? L'alcool. Alors, l'avarice et l'alcool se combattent. Je voudrais boire, mais je veux garder mon argent. Alors, je suis malheureux. Et puis, vous pouvez multiplier les convoitises diverses qui se combattent l'une l'autre. Elles font la guerre à l'âme. Voyez-vous, on n'a pas la paix dans l'âme. Il y a la guerre dans notre âme, parce qu'il y a des convoitises qui se font la guerre. Alors, notre âme est un champ de bataille. Ou bien, est-ce que votre âme a connu l'apaisement? Jésus nous apaise. Jésus apporte l'apaisement et la délivrance. Alors, ayant la paix intérieure, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ça, c'est capital. Parce que le monde, il observe notre vie quotidienne, afin que même là où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, parce que c'est ce qui arrive, quand on se convertit et qu'on ne fait plus ce que le monde fait, on nous calomnie. Pourquoi ? Parce que de faire ce que le monde fait, ben ça justifie les gens du monde. Mais maintenant, vous ne les critiquez même pas, mais vous ne faites plus ce qu'ils font. Ça les juge. Vous devenez, comme chrétien, un gêneur dans votre milieu. Je me souviens toujours d'un grand directeur d'une école de Lausanne en Suisse, dans mon pays, qui me disait, après sa conversion, il était officier suisse et il était malade dans un sanatorium de Lausanne où je travaillais. Et il me disait, tu sais, quand j'arrive aux messes des officiers, maintenant que je suis converti, c'est le silence. Et avant, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Des grossièretés. C'était à celui qui racontait la pire cochonnerie. Même qu'il n'avait peut-être pas commis, mais il y a... On aime raconter des choses. Il fait rire. Grassement. Mais il disait, maintenant, quand j'arrive, il se tait. Et je sens que je suis devenu un gêneur. On devient des gêneurs. Sans même dire quoi que ce soit. Mais votre vie est un jugement sur leur propre vie. Parce qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Il faut qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Oh, que Dieu veuille que plusieurs soient visités. Et qu'un jour, vous puissiez entendre les témoignages que votre vie a touché telle ou telle personne. Verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur. Alors maintenant, c'est la soumission. L'exhortation à la soumission. Et vous verrez que nous devons être soumis à quoi? Verset 13, c'est d'abord à toute autorité établie. On doit être soumis à l'État parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Théoriquement, c'est cela. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais le principe de l'autorité dans le gouvernement, c'est un principe divin. Et nous nous soumettons aux autorités parce que nous sommes chrétiens. La soumission aux autorités, Paul en parle dans le chapitre 13 des Romains, c'est une chose qui est approuvée de Dieu. Dieu a donné les autorités pour qu'il y ait un certain ordre dans ce monde. Sans ça, ce serait quoi? Ce serait l'anarchie. Hein. Alors, un des premiers témoignages d'un chrétien, eh bien, c'est pas de militer dans un parti politique, c'est d'être soumis aux autorités et de faire le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Vous voyez que c'est d'abord, non pas par nos paroles, mais par notre conduite, que l'ignorance peut être réduite au silence. Et les insensés, qui est-ce qui est insensé? Ceux qui nient l'existence de Dieu. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Eh bien, c'est vous qui êtes la preuve vivante que Dieu existe. Ce n'est pas vos paroles. Mais votre vie doit être une preuve pour les incrédules que Dieu existe. C'est ça que nous devons comprendre. Notre vie même doit être une preuve de l'existence de Dieu. Étant libre, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Nous sommes des gens libres. Nous n'accomplissons plus des devoirs religieux, comme on vous l'a dit si souvent. Hein. On faisait des devoirs religieux, on était pratiquants. Ce n'est pas ces pratiques qui nous sauvent. Mais maintenant, vous êtes libres, et si vous faites quelque chose de spirituel, vous le faites d'une façon libre. Mais attention de ne pas dire, ben voilà, puisqu'on est libre maintenant en Jésus-Christ, nous pouvons faire ce que bon nous semble. N'employons jamais notre liberté dans ce sens-là. Qu'est-ce que c'est que la vraie liberté chrétienne? C'est de pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est de pouvoir faire la volonté de Dieu. Voilà ce que c'est. Un homme libre, c'est quelqu'un qui est capable de faire la volonté de Dieu. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En dehors de Jésus, nous ne pouvons pas être libres. Mais en lui, nous avons la libération et il nous dispose pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Alors, honorer tout le monde, vous voyez que ça va loin. Hein? Il n'est pas dit aimer le monde, mais honorer tout le monde. Aimer les frères, alors là, il y a un degré de plus, il y a honorer et puis il y a aimer. Il y a une différence. C'est rendre aux autres l'honneur qui leur est dû parce que ce sont des créatures de Dieu. Mais les frères, alors, ceux qui sont nés de nouveau, bien nous pouvons vraiment les aimer. Mais nous avons quelque chose à apprendre. Est-ce que nous aimons les frères? Craignez Dieu, vivre dans la crainte de Dieu, de la crainte de lui déplaire, puis honorer qui? Le roi. Et qui était roi à ce moment-là, ou empereur? C'était Néron. Il n'était pas dit qu'il fallait se révolter contre Néron et essayer de faire un attentat contre Néron. Il y a des chrétiens qui pensent que on doit prendre l'épée pour délivrer son pays d'un tyran, etc.
Bien, je pense que notre véritable épée, c'est la parole de Dieu et c'est la prière. Mais ceux qui ont voulu participer en tant que chrétiens en disant nous devons être dans la révolution et nous devons amener justement la justice en retranchant les méchants, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été frappés eux-mêmes. Celui qui frappera par l'épée périra par l'épée. Mais on en fait des martyrs, mais là, je crois que nous devons bien comprendre qu'un chrétien, il est retiré du débat du peuple. C'est un verset que mon père m'a enseigné. Tu m'as retiré du débat du peuple. C'est le psaume 18e. Notre tâche, elle est différente. Elle est tout à fait autre. Nous sommes la milice de Dieu. Mais vous ne voyez pas le Seigneur prendre l'épée. Il viendra, lui. Il jugera le monde à son heure. Nous le jugerons avec lui. Mais dans ce temps-ci, notre tâche, elle consiste à vivre le témoignage du Christ. Et là où le Christ a été crucifié, quelle sera notre part? C'est d'être crucifié. C'est d'être crucifié avec lui. Notre prédestination nous amène à la souffrance, à la croix. Je ne peux pas régner dans ce monde où mon maître a été crucifié. Comprenez-le bien. Et nous n'avons rien à faire avec les mouvements politiques. Notre politique pour le monde, c'est d'être soumis aux autorités, respecter les lois, payer notre tribut, nos impôts, prier pour ceux qui nous gouvernent, mais nous n'avons pas à nous engager dans les débats publics. Ça, j'en suis absolument convaincu. Vous pouvez faire autre chose. Je ne vous mets pas sous un joug. Vous pouvez avoir d'autres pensées, vous pouvez penser que vous allez transformer le monde. Est-ce que vous pourrez transformer le monde vous-même, par vos efforts? Non. Nous savons bien. Parce qu'alors, vous voyez, l'apôtre Pierre aurait pu dire aux serviteurs, aux esclaves, parce que c'était l'esclavage, hein, et la plupart des croyants qui se convertissaient dans ces églises étaient des esclaves. Les premiers sauvés dans l'église primitive, chez les païens, étaient généralement des esclaves. Alors, vous ne voyez pas l'apôtre demander aux esclaves de se soulever. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Et combien dans l'église primitive de maîtres qui ont été sauvés par le témoignage de leurs esclaves? Et alors, quand ils étaient sauvés par le témoignage de leurs esclaves, eh bien, bien des esclaves ont été libérés par les maîtres qui ont compris et qu'ils avaient eux aussi un maître dans les cieux. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, alors mettez au lieu de maître, mettez patron, hein. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, si vous avez un patron bon et doux, eh bien, Dieu soit loué, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Donc, vous êtes avertis que comment vous devez vous conduire même avec un patron qui a un caractère difficile. Tu as un sacerdoce vis-à-vis de ton patron, vis-à-vis de ceux qui t'emploient, et c'est un sacerdoce royal. Ça change complètement les relations. Vous avez un sacerdoce royal. C'est pas une gloire que vous faites, mais c'est vrai. L'esprit de votre Père est en vous. Vous avez un sacerdoce royal qui lie en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Voilà ce qui doit nous caractériser dans ce monde, quelle que soit notre situation. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Méditez là-dessus. Hein. Alors si c'est une grâce, qu'est-ce qu'on devrait faire quand on souffre injustement? Être joyeux et bénir le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour cette injustice que je subis. Qu'est-ce que nous avons dans notre cœur quand nous subissons une injustice? La révolte. Ça, c'est pas facile. Non, alors, vraiment, ils sont injustes avec moi. Et nous avons de l'amertume et de l'aigreur. Et c'est ça qui nous détruit. La vie chrétienne normale, la vie chrétienne authentique, c'est une vie où l'on accepte. C'est dans le programme, c'est une grâce de supporter les afflictions. De sa plénitude, nous avons reçu grâce de grâce. Les afflictions sont des grâces. Par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il de supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Vous voyez que le chrétien devrait être, avoir une réputation d'être absolument correct. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on entend partout? Ben, vous savez, c'est chrétien. Je me souviens en France d'un athée qui était sur le chemin, il avait sa maison sur le chemin d'une assemblée très, très biblique, où il voyait les gens qui allaient dans ces réunions de prière. Puis il avait mis, lui, un grand écriteau, parce que les chrétiens avaient mis des écriteaux bibliques pour signaler leur présence, et il avait mis, lui, « Priez moins et ne volez plus ». Alors, les frères qui passaient devant son écriteau, ils voyaient ça, « Priez moins et ne volez plus », parce que ces braves chrétiens qui aimaient soi-disant le Seigneur, eh bien, ils faisaient des prix exorbitants, et ils n'étaient pas toujours honnêtes. Vous savez, le monde le voit là. Priez moins et ne volez plus. J'en écris toi, mais dans son jardin. Quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. Je demande au Seigneur, parce que moi je ne peux pas le faire, mais que vraiment il nous convainque que c'est une grâce. Même si on dit du mal de nous, même si on ne nous comprend pas, même si on est injuste à notre égard, et qu'on raconte toute espèce de choses, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté au sujet du Seigneur? Alors, c'est à cela que vous avez été appelés. Est-ce que je pensais que j'étais appelé à autre chose? J'étais appelé à souffrir. Oh, mais si j'avais su, alors je n'aurais pas dit oui au Seigneur. Tu regrettes? Et vous voyez comme il faut faire attention quand on est prédicateur de l'Évangile. Il ne faut pas leur dire aux gens qui doivent se convertir, vous aurez une vie en rose. Ça va aller tout seul maintenant que vous avez le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Jésus n'a jamais trompé ses disciples et son auditoire. Des gens voulaient le suivre. Il dit, tu veux me suivre? Prends ta croix et suis-moi. Jésus n'a pas trompé les âmes. Nous voulons tellement les âmes au Seigneur que nous rendons le salut facile. C'est pas vrai. Vous êtes prédestinés, vous êtes sauvés pour souffrir sur la terre. Alors voilà qui me réconcilie avec toutes les épreuves que je peux rencontrer dans ma vie. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que, quel est mon exemple? Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a souffert et il m'a laissé un exemple. Et nous allons terminer avec ces traces. Nous avons eu une fois une réunion, je pense que c'était ici, il y a plusieurs années, sur les traces que le Christ a laissées. Christ a souffert, nous laissant un modèle ou un exemple afin que nous suivions ses traces. Peut-être qu'il y avait quelques-uns qui sont ici qui se souviennent de cette réunion où nous avons essayé de montrer les traces du Christ. Jésus nous a laissé des traces, lui qui est vraiment le modèle. Pourquoi est-il venu sur cette terre? Quelle était sa motivation? Qu'est-ce que son père voulait? Son père voulait le salut des pécheurs, de ces créatures perdues. Alors, le Fils unique, parce qu'il aimait le Père. Tout est sorti de son amour. Parce qu'il aimait le Père, il a consenti à quoi? à renoncer à sa condition divine. Et si vraiment il aimait le Père, il allait devenir obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Alors, les traces de Christ, eh bien, je les vois ainsi. La première trace qu'il nous laisse, c'est celle de l'amour. Jésus a aimé. Et parce qu'il aimait, il a obéi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a obéi. Et il a renoncé à sa condition divine et il a accepté de naître sur cette terre, de paraître ici-bas comme un homme. Il est dit que il était de condition divine, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, il était égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même. Et il a été trouvé en figure ici-bas comme un homme. Donc, les traces de Christ, c'est l'amour. L'amour nous conduit à l'obéissance. L'obéissance nous conduit au renoncement. Et alors, quand on a renoncé, comment était-il Jésus sur la terre? Il avait renoncé à tout. Il était dépendant. Hein? Jésus, sur cette terre, était l'homme parfaitement dépendant. Il dépendait d'abord de sa mère, de Marie, de Joseph. Il était un petit enfant dépendant. Il était dépendant. Et puis, alors, si vous continuez avec ces traces, hein, ayant renoncé, il est devenu dépendant. Quand on est dépendant, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il était, Jésus? Qu'est-ce qui le caractérisait? Un homme dépendant, il est humble. Il était humble. Parce que l'humilité est le fruit de la dépendance. Quand on est dépendant, on est humble. Et puis, qu'est-ce qui caractérisait encore Jésus? Avec son humilité, il était doux. Il était doux. La douceur. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il a été comme homme sur cette terre, vivant dans la dépendance de son Dieu, il était le chef et le consommateur de la foi. Il a vécu dans la foi unique à son Père. À son Père. C'était l'homme de foi. Il allait, il marchait de foi en foi. Et cette vie de foi, elle se manifestait dans la lumière. Il était la lumière du monde. Et dans la lumière se trouve aussi la vérité. Jésus était la vérité. Et puis, la vérité, quand on vit dans la lumière et la vérité, eh bien, on vit dans la justice. Jésus était juste. Et puis, il était saint. Il marchait dans la sainteté. Il pouvait dire, qui d'entre vous me convainc de pécher? Et alors, jusqu'au bout, cette vie, dans ces traces-là, il pouvait parler de sa joie. Il parlait de sa joie et il pouvait parler de sa paix. La joie, la paix, et alors, ça a été la manifestation de sa puissance qui lui a permis d'être obéissant jusqu'à la mort. Il est allé dans la puissance de l'esprit jusqu'à la mort. Il a enduré la croix et il a fini par la gloire. C'est ça les traces aussi. Alors, reprenez ces traces. Amour qui conduit à l'obéissance. Obéissance qui conduit au renoncement. Renoncement qui conduit à l'humilité. Humilité qui conduit à la douceur, à la foi, à la lumière, à la vérité, à la justice, à la sainteté, à la joie, à la paix, à la puissance et finalement à la gloire. C'est ça le sentier du juste. Ce sont là les traces du Christ qui nous a laissées. Eh bien, Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que nous suivions ses traces. Et moi, ce que j'ai dû apprendre, c'est que, quand je dis au Seigneur, « Seigneur, pourquoi tu es tant de peine à obéir ? » Qu'est-ce que le Seigneur me montre ? Pourquoi est-ce que j'ai de la peine à obéir ? Parce que je n'aime pas. Et pourquoi est-ce que je n'aime pas ? C'est parce que j'ai oublié quoi ? La croix. Retourne à la croix. Et j'ai expérimenté au cours de mes 70 ans de vie que quand je reviens vraiment à la croix, je suis renouvelé dans mon âme. Chaque fois que j'ai eu un manquement ou une lacune, voilà, je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai tant de peine à obéir? Il me dit, mais c'est parce que tu n'aimes pas. Alors je confesse, oui, Seigneur, et je reviens à la croix. Et dans cette conviction de péché, j'ai toujours eu ce renouvellement d'amour. Parce que quand on aime, on obéit. Et puis, quand on dit au Seigneur, tu vois, j'ai tellement de peine à renoncer à ceci, à cela. J'ai réalisé aussi que, au fond, quand je suis contrarié, mes contrariétés ne sont que, au fond, la manifestation de ma volonté propre. Ça ne se passe pas comme je le voudrais. Alors je m'humilie. Je comprends, mais j'ai à m'humilier. Je dis que je dépends du Seigneur, mais voilà, j'ai de la peine à renoncer. Pourquoi ? Parce que je n'obéis pas, parce que je n'aime pas. Alors je retourne à la croix, au lieu de dire, Seigneur, donne-moi la grâce du renoncement. Non, le Seigneur me dit, pourquoi est-ce que tu ne renonces pas ? Et alors on a tout de suite la réponse. Retourne à la croix, tu pourras renoncer. Puis on dit, oh Seigneur, c'est vrai, hein, je suis un orgueilleux, donne-moi l'humilité. Puis on pense que l'humilité va nous descendre avec des petites ailes, et on va recevoir la grâce de l'humilité. C'est beau, quelqu'un de humble. Mais quand vous demandez l'humilité, qu'est-ce qui va vous arriver ? Des humiliations. Puis alors vous dites, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Mais t'es exaucé. Tu voulais l'humilité, je t'ai envoyé des humiliations. Puis maintenant, au lieu de me rendre grâce, je te rejoins. Nous ne sommes pas conséquents. Soyons de ceux qui comprennent ces choses. Ayez les reins sains, hein, et aussi saignez votre intelligence. Puis aussi, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis si dur ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas assez de douceur ? C'est parce que je ne suis pas humble. Parce que je ne dépends pas de lui. Alors je reviens à la croix. Et puis, nous suivons ses traces. Tandis que Adam, justement, il n'a pas aimé. Alors, quand on n'aime pas, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a désobéi. Et au lieu de renoncer, il a voulu accaparer, prendre le fruit qui ne lui appartenait pas. C'est les traces contraires. Il n'a pas aimé, il a désobéi, il a accaparé, et il a voulu devenir indépendant. Il voulait devenir indépendant, il voulait vivre seul, hein, être son maître. Nous voulons encore demander à Dieu sa bénédiction sur les moments que nous passons ensemble cet après-midi. Ô Père, nous sommes sous ton regard.